Chapitre 46. Comment les aventures se multiplièrent sous les pas de notre chevalier. Aussitôt que Don Quichotte se mit en rase campagne, maître de poursuivre ses glorieux desseins, il sentit naître dans son âme une force, une ardeur nouvelle. Et se tournant vers son écuyer, « Ami, dit-il, dans l'univers, il n'est qu'un seul bien digne des efforts, des travaux, de l'amour des hommes. Ce bien, c'est la liberté. Je te dis ceci, Sancho, pour que tu ne sois pas surpris de l'aveu que je vais te faire. Tu fus témoin des soins, des hommages, des respects que l'on m'a prodigués dans ce château d'où nous sortons, de l'abondance, de la grandeur que l'on y voyait régner. Eh bien, ami, dans ces banquets magnifiques où les breuvages délicieux, où les mets les plus délicats se succédaient, se variaient sans cesse, rien ne réveillait mon goût, rien ne flattait mes désirs. Je n'étais pas libre. Je me sentais dans la dépendance du possesseur des biens que l'on m'offrait, et ma juste reconnaissance, sans être un fardeau pour mon âme, était une chaîne pour mon esprit. « Monsieur, répondit l'écuyer, ce que vous dites est fort beau. Cependant, vous me permettrez d'être bien aise de ce que l'intendant de Madame la Duchesse soit venu me remettre de sa part 200 écus d'or, dans une bourse que je porte ici sur mon estomac, comme un excellent cordial, un admirable corfotatif, qui vous sauvera quelque jour la vie. Vous pouvez vous tranquilliser sur le malheur d'habiter des châteaux où l'on vous traite trop bien. Ces châteaux-là ne sont pas communs, tandis qu'il y a dans le monde une infinité d'hôtelleries où l'on est roué de coups. » En s'entretenant ainsi, nos voyageurs entrèrent dans un bois, peu éloigné de la grande route. À peine eurent-ils fait quelques pas que Don Quichotte se trouva pris dans des filets de soie verte, tendus avec art sous le feuillage. « Sancho, dit-il. Ou je suis bien trompé, ou voici une des plus grandes aventures qui me soit encore arrivée. Les magiciens, mes persécuteurs, ont imaginé sûrement de m'arrêter dans ces filets. Mais fussent-ils l'ouvrage de Vulcain, cette main va bientôt les rompre. » À ces mots, tirant son épée, il se disposait à briser les filets lorsqu'il vit paraître deux jeunes bergères, dont l'air, la démarche, les riches habits n'annonçaient pas de simples paysannes. Leurs blonds cheveux tombaient en longues tresses sur leurs épaules. Leur tête était couronnée d'amarantes et de lauriers. Et la douceur, la politesse, se peignaient sur leurs beaux visages, qui n'annonçaient que 15 ou 16 ans. « Arrêtez, seigneur chevalier, dit l'une d'elles, ne brisez point des filets qui ne sont pas un piège pour vous. Nos innocents plaisirs ne nuisent à personne. Ici, sous des tentes dressées au milieu des bois, se réunissent tous les ans, pour passer ensemble les plus beaux jours, plusieurs familles heureuses, habitant d'un bourg voisin. Ici, les époux, les parents, les amis, les vieillards eux-mêmes, vêtus en berger, portant la houlette, retracent une douce image de la vie pastorale. Nous parcourons en liberté ces bocages, ces prés fleuris, cette campagne délicieuse. Nous lisons au bord des fontaines les belles églogues de Garcilaso et de Camoens. Souvent, nous les représentons et nous jouissons à la fois des beautés de la nature, du charme de la poésie et des douceurs de l'amitié. Hier, pour varier nos plaisirs, nous avons tendu ces filets où nous espérons prendre des oiseaux. Daignez assister à nos jeux? Daignez vous reposer sous nos tentes. La franchise et la gaieté vous y recevront. Dans la nouvelle Arcadie que nous avons ici formée, nous nous trouvons heureux d'exercer les devoirs de l'hospitalité. Mesdames, répond le héros, votre présence, vos discours, vos occupations, vos offres polies, tout m'inspire un doux respect mêlé de vive reconnaissance. Plutôt que de briser l'instrument de vos plaisirs, j'aimerais mieux, si vos filets couvraient la face de la terre, aller chercher un monde nouveau pour m'y frayer un chemin. Ces paroles, dans une autre bouche, pourraient ressembler à l'exagération, mais elles deviendront bien simples quand vous saurez que celui qui vous parle est Don Quichotte de la Manche. « Ah, mon ami !» s'écria alors une bergère qui n'avait encore rien dit. « Quelle est notre félicité ? Le chevalier que nous voyons est le modèle de la valeur, de la galanterie, de l'amour fidèle. J'ai lu, je sais par cœur son admirable histoire. Et je gagerai que cet homme que nous voyons derrière lui est le bon Sancho Panza, le plus spirituel et le plus aimable des écuyers. « C'est tout comme vous le dites, » répond Sancho. « C'est moi qui suis moi, et voilà mon maître. » « Ma chère amie, » ajouta la bergère, « supplions ces deux voyageurs de s'arrêter ici quelques instants. » « Je vous rends grâce de tant de bonté, dont je ne profiterai point, » répond Don Quichotte. « Je dois continuer ma route. » Ma profession m'interdit le repos. Dans ce moment, arrivèrent plusieurs bergers, frères, amis des deux bergères. Instruits par elles que ce héros était le fameux Don Quichotte, dont ils avaient lu les grandes actions, ils le supplièrent de nouveau de venir au moins dîner sous leur tente. Notre chevalier le promit. Et la chasse ayant aussitôt commencé, une foule d'oiseaux, effrayés par les cris, par la bruyante joie des chasseurs, vint se prendre dans les filets. Tout le monde alors arriva. Une trentaine de bergers et de bergères se réunirent autour de Don Quichotte, dont on sut à peine le nom, qu'il devint l'objet de tous les hommages. On le conduisit aux tentes. La table était mise, le dîner prêt. On lui donna la place d'honneur. Sancho se tint derrière lui. La plus aimable conversation anima bientôt le repas. Don Quichotte, qui parlait de tout avec son esprit ordinaire, surprit et charma ses convives. À la fin du banquet, Don Quichotte dit à ses hôtes : « Permettez-moi de vous confier un projet que m'inspire la reconnaissance. Je veux tout à l'heure monter à cheval, me placer sur la grande route, et là soutenir contre tout venant, pendant deux soleils entiers, qu'il n'est personne dans l'univers, la seule destinée acceptée, que l'on puisse comparer à ces aimables bergères pour les grâces et la politesse. » Aussitôt, et sans attendre de réponse, notre héros sort de table, court monter sur Rocinante, et suivi de Sancho sur son âne et de la troupe de pasteurs qui voulait voir la fin de cette aventure, il va se planter au milieu de la route, où trois fois il crie d'une voix de tonnerre que tous les passants, tous les voyageurs, se préparassent à faire l'aveu de ce qu'il avait avancé. Personne ne répondit, car il ne fut entendu de personne. Mais quelques instants après, on vit venir dans le chemin des hommes à cheval, à pied, armés de longs bâtons ferrés, et conduisant un troupeau d'animaux qui faisait voler au loin la poussière. Les bergères les eurent à peine distinguées qu'elles se retirèrent avec effroi. Le seul Don Quichotte, inaccessible à la crainte, s'affermit sur la selle et demeure à sa place. Sancho se couvre le mieux qu'il peut de la croupe de Rocinante. Le troupeau s'avance, et l'un de ceux qui le guidait se met à crier « Range-toi donc, si tu ne veux pas que ces taureaux te mettent en pièces !»« Vraiment !» répondit le chevalier. « C'est bien à moi que les taureaux font peur. Quand ils seraient de Xarama, ce bras saura les arrêter jusqu'à ce que vous ayez confessé que les bergères de ce bocage... » Il n'acheva point. Les taureaux interrompirent son discours en jetant par terre et le héros et son cheval et l'écuyer et son âne. Ils leur passèrent à tous sur le corps sans seulement les regarder. Et lorsque nos aventuriers se relevèrent, les taureaux étaient déjà loin. Don Quichotte, tout en boitant, eut beau courir après eux, les traiter de lâches, de malandrins, aucun ne retourna la tête. Sancho, dans un profond silence, fit relever l'âne et Rocinante, les amena doucement à son maître, qui, honteux et désespéré du triste succès de son entreprise, ne voulut point reparaître devant les bergères de l'Arcadie, et continua son chemin sans dire un mot à son écuyer.